Voilà, bah, je vais essayer de répondre un petit peu à vos réflexions ou questions que j'ai pu apercevoir sur ces feuilles. Pour aborder ce deuxième thème, donc les divorcés, les remariés, invités à la joie de l'amour du pape François. Donc c'est le titre du livre justement. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est ce que j'ai pris de ce livre. Voilà. Je voudrais rentrer dans la problématique peut-être à travers le regard de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, on n'en parle pas souvent. C'est l'enfant. Voilà. Comment est-ce que l'enfant voit ça? Vous savez que les jeunes qui entrent au séminaire maintenant, ben voilà, ils viennent de tous les milieux, plus forcément d'une paroisse qui les a formés, d'une famille qui les a éduqués à la foi. Beaucoup arrivent et sortent de familles qui n'ont plus la foi. Et pour qui c'est une catastrophe de constater que leur fils entre au séminaire. Donc ils ne sont pas du tout soutenus. Donc c'est des jeunes qui arrivent quand même avec une certaine force, une conviction. Conviction, hein. C'est beau de voir ça. L'année passée, moi j'avais 9 discernants en année de propédeutique et la moitié ben, venait de familles séparées, déchirées. Avec quand même des enfants, des jeunes plutôt, où on sentait un manque. Et ce jeune dont je vais vous livrer le témoignage, il me l'a donné avant de partir, je trouvais très beau. Pour lui, eh ben, l'Église, ça a été sa force, ça a été ses parents, ça a été un soutien immense, et il va le dire, comme je vais vous le lire, ce témoignage, un personnage s'est détaché de cette Église, c'est Jean-Paul II. Et pourtant, quand Jean-Paul II est mort en 2005, ce jeune séminariste, qui est en deuxième année maintenant, avait 7-8 ans. Vous vous rendez compte? Et il a été impressionné par ce pape. Et il y a vu un peu son propre père. Vous savez, des fois, Dieu agit, ben, vous voyez, par des signes, par des personnes. On ne sait pas très bien comment. Donc voilà ce qu'il me dit, Dominique, qui est un pseudonyme, parce qu'il m'a dit je n'aimerais pas être connu. Alors, ses parents se sont séparés lorsqu'il avait 14 ans. Et il raconte qu'après une promenade de ce dimanche après-midi, le soir autour de la table, la maman se met à pleurer. Les deux enfants, le frère et la sœur, avaient déjà fleuré, flairé quelque chose. Il me parlait, on sentait qu'il y avait un danger, mais quand on est enfant, on n'ose pas mettre les mots justes sur ce danger parce qu'on espère toujours que nos parents ben, soient là et soient notre soutien. Et voilà que la maman éclate en sanglots et Dominique regarde sa grande sœur en disant mais qu'est-ce qui se passe? Et sa sœur lui répond, papa est allé voir ailleurs. Et cet enfant se roule par terre de douleur, tout le monde pleure dans la maison, le père s'en va, c'est une tristesse, une chape de plomb qui enveloppe toute la famille, puis surtout les deux enfants qui n'y comprennent rien, mais ce qu'ils saisissent, c'est qu'ils ne verront plus leur père. Tous les jours à la maison. Par la suite, dit-il, la tristesse a fait place à la colère. Je me suis révolté contre mon père. Je l'ai jugé. En sa présence, je restais de marbre, bloqué. Et lui était démuni face à moi, face à cette attitude glaciale. Alors moi, j'ai fui. Je me suis raccroché à mes études pour oublier. Jamais j'en parlais à l'école, aux camarades. Je vivais comme si rien ne s'était passé, mais je restais vraiment comme ce bloc de marbre. Puis arrive la deuxième vague, une année après, lorsque ma mère trouve un compagnon. Et là, c'était vraiment là, c'était terrible, quoi. Et ceux à qui j'en parlais, aux adultes, banalisaient la situation. Mais tu sais, aujourd'hui, tout le monde se divorce. T'es pas le premier, t'es pas le dernier. Oui, mais c'est que moi, je ne suis pas beaucoup ce divorce. Alors je me suis tourné vers Dieu parce qu'il a perçu l'éducation chrétienne, cet enfant à la maison, à part les grands-parents qui ont joué un rôle important dans sa vie. Alors je me suis tourné vers Dieu en me disant que par la prière, il pourrait changer le cours des choses. Mais ça n'a rien changé. C'était une injustice. Je n'ai pas pour autant abandonné Dieu. Je continuais de le prier, m'approchant de plus en plus de l'Église. Dans son enseignement, je trouvais des mots justes posés sur ma souffrance. Vous voyez, ce matin, je faisais cette distinction entre pastorale et doctrine. Et voyez maintenant comment simplement la doctrine a pu aider, cet enfant qui allait petit à petit devenir un adolescent. C'est aussi beau de voir, hein. Comme je vous disais ce matin, on ne rejette ni l'un ni l'autre entre laxisme et légalisme. Hein. Donc la pastorale se dirige vers l'idéal. C'est cette main du pasteur qui nous prend avec lui et qui nous invite, qui nous encourage à poursuivre cette marche sur ce chemin de montagne. Dans son enseignement, je trouvais des mots justes. En parlant de séparation, de divorce, elle parlait d'injustice, la souffrance des enfants. Je me sentais reconnu, soutenu. Comme je ne trouvais plus de modèle solide dans mon entourage proche, l'Église devenait mon modèle. Elle me parlait d'amour, de vérité, de justice, de fidélité possible avec l'aide de Dieu et des sacrements. J'avais besoin de cette figure de référence. Un visage se détachait, je l'ai dit, donc c'était Jean-Paul II, que je voyais comme un père et depuis, je me mis à suivre son enseignement. Le divorce est tiré sur 5 ans. Dans cette période chewing-gum, j'ai dû jouer le rôle d'intermédiaire entre mes parents, car ils n'arrivaient plus à communiquer, mission dont je me serais bien passé. Oui, l'Église m'a nourri de son Eucharistie, de son enseignement, notamment au sujet de la famille et du pardon. J'ai pu peu à peu dépasser mes sentiments d'injustice, ma révolte, et un jour j'ai vraiment pu pardonner à mon père. Et c'est beau, hein, comment l'Église a été sa force et son soutien jusqu'au pardon. J'avais 17 ans, mais je reste aujourd'hui encore en quête de sens, de reconnaissance et d'amour. Petit à petit, j'en suis sûr, la blessure se fermera. Un prêtre m'a beaucoup aidé à distinguer le bon grain de l'ivraie dans cette nouvelle relation. Finalement, mes parents semblent heureux et c'est cela que je veux voir. Aujourd'hui, je suis au séminaire, voilà, en route vers le sacerdoce. Si je suis rentré au séminaire, ce n'est pas par fuite, bien sûr, puisque cette vocation, au départ, lorsque je découvrais la figure de Jean-Paul II, cette vocation est entrée dans mon cœur et depuis, elle y est toujours restée. Je veux devenir prêtre parce que le Seigneur m'y appelle, tout simplement. Et un jour, si je suis prêtre, je me réjouis de célébrer des mariages pour témoigner aux jeunes de la beauté de l'amour et surtout de l'amour connecté à sa source divine. Moi qui ai vécu la blessure du divorce, j'aimerais dire à tous les divorcés et aux remariés, pour moi, vous demeurez mariés avec la première personne de votre amour. Le second mariage n'est pas mon histoire, c'est la vôtre. Cela dit, sans jugement de valeur, bien sûr, car vous devez comprendre que je suis né de votre première union, de votre premier amour. Sans cela, je n'ai plus de racines, je ne sais plus qui je suis. J'ai besoin de savoir que votre premier amour demeure indissoluble, comme nous le dit l'Église. Comprenez, c'est vital pour moi. Pardonnez-moi si je vous blesse, mais c'est ça la vérité pour moi. Si je me réjouis de votre nouveau bonheur, parce que je vous sens bien ensemble, il me reste pourtant un goût d'inachevé, une sorte d'exclusion de ce premier amour qui m'avait nourri et protégé. Je porte en moi cette blessure. Aujourd'hui, je prie pour mes parents, pour qu'ils rencontrent Dieu dans leur vie et se convertissent et trouvent le vrai chemin de bonheur, celui que Dieu voudra leur proposer à partir de leur situation. Je ne rêve pas d'un retour de l'un vers l'autre, mais de leur conversion afin qu'ils trouvent le chemin de la source qui guérit les blessures et la lumière qui les guidera. Comme un petit Moïse, j'aimerais frapper le rocher pour en faire jaillir l'eau vive qui apaise la soif de bonheur. Je veux leur témoigner de la beauté de l'amour lorsque l'amour est vécu en Dieu. Sentez ce beau témoignage comme c'est équilibré, comme c'est juste, comme c'est vrai. Toutes les chances sont données, un chemin s'ouvre. Mais pour lui, ben, voyez, côté enfant, combien l'enseignement de l'Église est important. Et combien il le dit sans cet enseignement, moi je n'ai plus de racines, je vacille. Alors vous voyez, quand on fait un cheminement, c'est important de tenir compte de tout cela. Et souvent le cardinal Schönborn le disait, le parent pauvre dans une séparation, c'est l'enfant. Et c'est important de s'en rendre compte, parce que l'enfant, il souffre. Mais comme toute souffrance peut diffuser de la lumière, comme on l'a vu ce matin, c'est aussi avec l'aide des parents, avec l'aide de toutes les personnes qui sont concernées par une séparation, par une rupture. Ça, c'est important. Je pense qu'il y a là une mission importante et Cardinal Schönborn le dit souvent dans ses conférences, puisque lui est le fils de parents divorcés, lorsqu'il avait 13 ans. Il dit, si vous voulez vraiment avancer dans la vérité, posez-vous la question, est-ce que vous avez fait souffrir vos enfants? Est-ce que vous leur avez demandé pardon? Ça passe aussi par le chemin de vérité, voyez? Si on veut être libre, si on veut avancer sur le chemin que Dieu veut pour nous, que Dieu nous propose. Et c'est ce que me disait souvent Dominique, il me le dit encore quand j'en parle avec lui, j'aimerais que mon père me demande pardon. Que ça serait pour moi, mais la dernière libération. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Combien ça sera important pour moi. Voyez ? Et il ne veut pas le provoquer à cela, parce qu'il ne voudrait pas que son père lui demande pardon par forcing. Mais voyez, c'est des petites choses que je vous dis qui peuvent aussi servir à tant de couples séparés ou remariés. Voyez, combien, côté enfant, c'est important. Et combien ces enfants-là ne vous le diront pas forcément. Et c'est pourquoi c'est important dans ces situations-là qu'ils aient une oreille à l'extérieur pour les écouter, les soutenir et les comprendre. Et voilà, ça fait partie aussi de la vérité d'un cheminement avec Dieu. Voilà, je voulais rentrer par l'enfant pour continuer cette réflexion en union avec le pape François. C'est important de donner la parole aux enfants aussi, parce que vous le savez bien, dans ces situations de rupture, il y a tellement de souffrances. Parfois, on voit des proches qui se liguent contre l'un ou l'autre, des conjoints. Les conseils fusent de toutes parts. Oh, mais moi, à ta place, je ferai comme ceci, je ferai comme cela. Et je me souviens de cette personne aussi séparée qui avait besoin de parler. Elle me disait, mais tu sais, personne ne m'écoute. Tout le monde me dit, mais pour ce mec-là, t'as qu'à en trouver un autre, t'en vaut la peine. Mais moi, c'est pas ça que j'aimerais entendre. J'aimerais juste qu'on m'écoute. Vous voyez, c'est des petits instruments qu'il faut qu'on se donne. On a souvent trop la réponse facile. Ou aussi, la facilité, c'est de se dresser contre l'autre en disant, mais voilà, il te méritait pas ou elle te méritait pas. Puis, prendre le temps d'écouter la souffrance. Sans donner de conseils. Alors, pour entrer davantage dans ce chapitre 8 de l'exhortation, le pape François nous rappelle, c'est vrai qu'il y a des situations dites régulières ou irrégulières, mais attention, dit le pape, il ne faut pas, dans le concret de la vie, faire ces classifications-là, parce qu'au bout du compte, on est tous en situation irrégulière quelque part. Il y a des situations qui soient comme le nez au milieu de la figure. Il y a des situations très cachées qui ne se voient pas. Donc le Seigneur veut sauver toute personne à partir de nos situations irrégulières. Personne, dit le pape, ne peut être condamné pour toujours parce que ce n'est pas la logique de l'Évangile. Avec une immense bienveillance, il s'adresse à chacun de nous, appelé à la conversion. Chacun de nous, dit-il, en situation d'état d'urgence d'être sauvé. En terre chrétienne, il ne doit pas exister de désespoir. Jésus ne fait pas de catégorie entre les personnes, entre gens bien, entre gens pas bien, leur disant « Est-ce que toi tu es dans la loi ? Est-ce que toi tu n'es pas dans la loi ?» Il veut sauver et les uns et les autres. Vous savez, dans ce très beau passage de Jean 8, la femme adultère, comment Jésus parfois tombe pour dessiner des traits sur le sol. Et moi, j'aime y voir dans ce vide entre les pharisiens qui condamnent et la femme adultère, j'aime y voir la conscience. Le but de Jésus, c'est de sauver autant le pharisien que la femme adultère, parce qu'elle était en état de péché. Alors Jésus, il rentre dans la logique de la loi. Mais à un moment donné, il s'effondre. Parce que la loi seule ne porte plus de fruits, il s'essemble, il tombe sur le sol, écrasé par la loi, écrasé par le péché de l'homme, écrasé par les jugements, écrasé par les condamnations. Il tombe sous le poids de la croix, c'est ça que ça veut dire. Et par ce geste, il voudrait comme toucher les cœurs, montrer que soit l'un, soit d'un côté ou soit d'un autre, on est tous par terre. C'est ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. qu'on soit juif, qu'on soit païen, qu'on connaisse la loi, qu'on ne connaisse pas la loi, qu'on connaisse la doctrine, qu'on ne connaisse pas la doctrine, nous sommes tous pécheurs. Ni par la doctrine, ni par la loi, on arrive à être sauvés. Mais par le Christ uniquement, à partir du moment où on reconnaît qu'on a besoin de l'être. Que l'on soit divorcé, que l'on soit simple personne en situation régulière ou irrégulière. On a tous, il n'y a pas un juste qui tienne debout, dit saint Paul dans Romains. Vous êtes tous pécheurs. Il y a juste le Christ qu'il faut regarder. C'est lui qui nous remet debout. Voyez ? Même si on est des fervents pratiquants et des connaisseurs de la doctrine, c'est pas ça qui nous sauve. La doctrine nous montre juste l'idéal, mais il ne faut pas oublier de temps en temps de regarder nos pieds qui marchent et puis qui nous montrent où l'on est, sur quel chemin on chemine, dans quel bourbier on piate. Vous savez, j'aime souvent parler du syndrome du cygne. Vous avez des cygnes, c'est ces grands oiseaux blancs sur les lacs, hein, et puis ils sont tellement paisibles, vous savez, ils glissent sur l'eau. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que dessous, ça fait comme ça. C'est très, très, très agité.
Ça s'agite en dessous.
Oui. Alors des fois, ben, on pourrait penser que dans une vie, tout va bien. Tout est en règle. Tout est dans les normes. Ça glisse comme le cygne sur l'eau. Mais si on va voir dessous, aïe, aïe, aïe. On serait étonné. Alors dans cet évangile de Jean 8, c'est tellement beau. Jésus laisse place à la conscience. Puis il se relève. Il y a ce jeu de tomber, se relever. Tomber, se relever pour dire, mais regardez-moi, je suis la miséricorde. Qu'à la lumière de mon regard, vous puissiez vous éprouver. Vous puissiez, sous ce regard d'amour et de miséricorde, voir vos blessures, voir votre péché. Et à un moment donné, il dit que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. C'est ça la réponse, la miséricorde. C'est une dernière tentative pour leur dire, reconnaissez-vous pécheurs, mais vous pouvez le faire parce que regardez, entre vous et cette femme, je suis là, je suis la miséricorde. Vous n'êtes plus seul avec votre conscience, je suis rentré dans votre conscience, je suis la miséricorde, je suis l'amour. Vous pouvez vous reconnaître, je n'attends qu'un mot et je vais venir purifier vos cœurs. Et je vais vous envahir de mon amour. Les pharisiens sont partis. Ils n'ont pas pu lâcher leur peur. Et cette femme reste seule avec Jésus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. C'est vrai qu'on peut se poser la question, mais ça vient ne pêche plus. On pêchera toujours. Mais dans le sens de saint Jean, ne pêche plus, ne commet plus le péché qui est la séparation définitive avec Dieu. C'est pourquoi au début de l'évangile, saint Jean dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, ce péché fondamental qui nous sépare de Dieu et qui nous laisse dans les ténèbres. » C'est de ce péché-là dont il s'agit. Va, ne pêche plus, va, ne retourne plus en arrière, ne lâche plus cette miséricorde, ne lâche plus Dieu. Et c'est ce Dieu qui va te montrer le juste chemin. Oui, Dieu veut sauver tous les hommes. Et la vraie question à poser, c'est pas si tu es en règle ou pas, mais qu'est-ce que tu vis ? Est-ce que tu es heureux ? Qu'as-tu besoin pour être heureux aujourd'hui ? Bien sûr, le pape ne relativise pas le péché, mais il commence par parler d'amour, parce que l'amour attire. Et quand on est dans l'amour, on voit notre péché. On n'en a plus peur et on peut aller jusqu'au fond de soi-même. Vous savez, dans Matthieu 25, j'aime aussi citer ce passage « Tout ce que j'aurais fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. » Puis souvent on se dit ben, « Qu'est-ce que ça veut dire ? Que nous dit réellement cet évangile ?» Ben oui, si on est chrétien, il faut voir Jésus dans l'autre, il faut voir Jésus dans le pauvre, il faut aller visiter le prisonnier, le malade, il faut vêtir celui qui est nu, il faut donner à manger à celui qui a faim, à boire à celui qui a soif. C'est pas ça du tout. On est tellement moralisateur dans notre christianisme, tellement moralisateur. On commence toujours par dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Il faut qu'on devienne plus mystique. Plus en communion avec Dieu. Qui est ce pauvre qui a faim ? Mais c'est d'abord moi. Mais ça saute aux yeux, ça tombe tout le sens, sous le sens. C'est moi qui suis parfois prisonnier, souvent, de mes addictions, de ceci, de cela. C'est moi qui ai tellement besoin d'être reconnu, aimé, visité. C'est moi qui ai tellement besoin d'être vêtu de reconnaissance, et non pas d'être vêtu par des regards critiques, médisants, destructeurs. Voyons, on peut relire tout cet évangile. Mais si je découvre que le premier pauvre, c'est moi, je vais découvrir que le Christ, avant d'être dans l'autre, il est en moi. Mais celui qui est en moi, c'est Jésus crucifié. Parce que je suis pauvre, il est crucifié de mes pauvretés. Parce que je suis pécheur, il est crucifié par mon péché. Il faut aller jusqu'au fond de qui est l'homme, en vérité. Car la vérité ultime de l'homme, c'est Jésus sur la croix. Vous savez, aujourd'hui, on présente l'homme, Monseigneur en parlait ce matin, si on le définit à travers ce que nous montrent les pubs, l'homme réalisé, réussi, aujourd'hui, c'est l'homme qui a entre 30 et 40 ans, qui est au sommet de la gloire, en costard-cravate, qui est adulé, qui est beau, qui est, etc., etc. Dès qu'apparaissent les premières rides et que nous tombent les abat-jours, les pubs peuvent au moins encore se servir de ces joues qui tombent par les pommades, les machins, les trucs pour rajeunir d'une année, deux ans, trois ans. Mais après, elles s'occupent plus de nous. Ce qui voudrait dire que l'homme n'existe plus en dehors de ces deux marges. Vous vous rendez compte de l'image que l'on montre aux jeunes de la réussite. Mais cet homme-là, son cœur est vide. Il n'aime pas, il est blessé, il est pécheur, il ne sait pas. Ce qu'il sait, c'est qu'il est dans une situation de détresse, il souffre, et il aimerait savoir pourquoi il souffre. Et vous voyez, quand je vois Jésus qui souffre sur la croix, je me vois moi qui souffre. Je me vois moi attaqué par les premiers signes de la vieillesse. Je me vois dans un lit d'hôpital, malade, souffrant, mourant. Qu'est-ce que l'homme ? On ne peut pas définir l'homme par ce qu'il fait, et même pas par ses relations qu'il entretient. Ce qui voudrait dire que l'homme dans un lit d'hôpital et sur le seuil de la mort n'existe plus. Mais c'est pourtant là, moi comme ancien soignant, j'ai vu les plus belles marques d'amour, c'est en fin de vie. Cet amour dégagé par une personne en fin de vie, et surtout par la famille qui l'entoure. C'est là où l'homme existe réellement, dans la fragilité, là où tout ce qu'il s'est construit autour de lui, cet homme faux et mensonger, s'écroule. Il n'a plus qu'un cœur à offrir. Voilà qui est l'homme, qui est réellement l'homme. Voilà, comme je disais ce matin, notre identité profonde. Et voyez-vous, en pastoral, c'est cet homme-là qu'il faut aller chercher, cet homme vrai. Cet homme blessé, cet homme dévêtu, cet homme qui a faim, cet homme qui a peur parce qu'il est blessé, parce qu'il est pécheur, et de lui dire, mais tu sais, regarde Jésus, il est plus blessé que toi. Il s'est fait même pécher, dit saint Paul. Il n'a plus rien, il est dévêtu, il est nu, il est jugé, il est critiqué, il est éjecté, il est marginalisé comme toi. N'aie pas peur de le regarder, tu vas te retrouver. Mais tu vas entendre cette parole plus forte que tout, je t'aime, je suis avec toi. Voyez, faire un chemin de vérité jusque dans son passé pour revisiter ses ruptures, les conditions de ces ruptures, on peut les faire efficacement que main dans la main avec Jésus, sous le regard de la croix. Et là, on peut être en vérité. C'est pourquoi je dis la vérité ultime de l'homme, c'est la croix. Parce que la croix va nous chercher jusque dans notre mort. C'est ça la vérité de l'homme. Si on nie la croix, on nie l'homme. On nie une partie de notre humanité parce qu'on ne va pas jusqu'au fond de ce qui nous fait mal. C'est ça la vérité. La croix, c'est la vérité ultime de l'homme et je peux visiter mon passé grâce à elle. Sinon, c'est mieux de ne pas y toucher. Je vais paniquer, je vais être bourré de scrupules, de culpabilité, de sentiments de culpabilité. Je ne m'en sortirai jamais sans la croix. C'est pourquoi la plupart des hommes et des femmes qui ont vécu des échecs et des ruptures ne veulent pas toucher à leur passé, et je comprends. Mais si je le revisite avec Jésus crucifié, c'est possible. et je vais laisser la lumière se diffuser jusque dans les parties, les pièces de ma personnalité qui me font honte et que j'ai verrouillées, que j'ai refoulées, dont j'ai fait le déni depuis parfois des années. Alors, dans la ligne pastorale de Jésus, celle qui ressort de l'exhortation du pape, c'est bien sûr l'accès des divorcés remariés au sacrement. Hein. Donc encore faut-il le rappeler, et le pape le rappelle en citant 1 Corinthiens 11, donc saint Paul, que c'est pas parce qu'on va communier que le sacrement va porter des fruits. C'est pas parce qu'on pense qu'on est clean, puis qu'on n'est pas divorcé ou je sais pas quoi, que ça va plus porter de fruits, parce que nous pouvons manger le pain de l'Eucharistie pour notre propre condamnation, nous dit saint Paul. Et là, le pape prend un exemple, hein, où il dit, par exemple, des gens qui vont communier tous les dimanches, mais qui, par exemple, exploitent leurs ouvriers, ou se détournent de la justice, quelle qu'elle soit, à un petit ou à un plus haut niveau, ils mangent leur propre condamnation, ne l'oublions pas. Comme disait cette dame, je vous citais ce matin, qui n'allait pas communier, qui communiait spirituellement, elle disait, mais voilà, comme je souffrais de voir aller ces gens communier comme ça, par habitude, mais on sentait qu'il n'y avait pas vraiment l'amour sur leur regard. Voyez ? Donc là, qu'est-ce que ça veut dire, communier ? Est-ce que la communion est un dû ou elle est un don ? Si elle est un dû, ben, il faut la revendiquer. J'y ai droit. Ça devient une revendication affective parce qu'on est blessé. Mais si c'est un don, j'en ai faim. J'en ai faim. Et il y a des faims parfois qui se travaillent, qui durent longtemps. Et quand Dieu voit que j'ai vraiment faim de lui, un jour, d'une manière ou d'une autre, il va me répondre. Et voyez, cette femme dont je viens de citer, dont je parlais ce matin, pour elle, la réponse, c'est ce Jésus qui quitte l'hostie pour aller s'asseoir à côté d'elle et qui lui dit, je suis avec toi, je suis en union avec toi, la communion de désir. C'est aussi quelque chose qu'il faut souligner, parce que si on ne souligne pas assez la communion de désir, on va continuer à aller comme ça, communier nonchalamment, et puis on va passer à côté de l'essentiel. Et je me dis que les divorcés, ou les divorcés plutôt, les divorcés remariés qui ont fait choix de ne pas aller communier, ben, il faut aussi dire que ces couples-là, eh ben, sont une page d'évangile pour ces personnes qui vont communier tous les dimanches sans conviction. Ils sont là comme un signe prophétique, en silence, pour dire « n'allez pas communier n'importe comment ». Sinon, n'y allez pas. Regardez comme nous crevons de faim. Et vous, parce que vous êtes clean, vous y allez comme ça. C'est aussi un signe, c'est aussi une mission. Il faut aussi et encore le souligner. Il y a, dans la maison de mon père, il y a une place pour chacun. Et chacun doit trouver sa mission, sa place, et non pas à partir de revendications affectives parce qu'on a été blessé, mais à partir de ce que Dieu veut pour nous. Et quand Dieu veut quelque chose, il nous le fait sentir au fond de notre cœur. Et il nous fait rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, ben, on serait tenté de dire avec le pape François, tout est permis. Mais ça ne va pas arranger et on ne pourra pas faire l'économie d'un vrai chemin sur soi-même si l'on ne prend pas nos responsabilités. Afin d'éviter toute interprétation déviante, dit le pape, je rappelle que d'aucune manière l'Église doit renoncer à proposer l'idéal complet du mariage, le projet de Dieu dans toute sa grandeur. C'est important. Moi, il y a souvent des couples qui sont mariés depuis 40, 50, 60 ans. Mes parents l'ont été 68 ans. De me dire, mais écoute, moi, il me semble qu'aujourd'hui, les privilégiés, c'est ceux qui ont connu un échec, puis nous, on nous oublie. Vous devez peut-être faire attention de ne pas les oublier, ceux-là, non plus. Ils doivent demeurer quand même un signe aussi important. Mais il est mesquin, poursuit le pape, de se limiter à considérer si l'agir d'une personne répond ou non à une loi ou à une norme générale, car cela ne suffit pas pour discerner et assurer une pleine fidélité à Dieu dans l'existence concrète d'un être humain. Un pasteur ne peut se sentir satisfait en appliquant seulement les lois morales à ceux qui vivent des situations dites irrégulières, comme si elles étaient des pierres qui sont lancées à la vie des personnes. C'est le cas des cœurs fermés qui se cachent ordinairement derrière les enseignements de l'Église. Voilà. Donc il s'agit encore une fois de conduire chacun vers la vérité à partir de sa situation. Le pape aime aussi citer saint Thomas d'Aquin, que je résume simplement avec mes mots à moi en le paraphrasant, où il dit que si les lois ou la doctrine donnent des normes et des principes généraux, ça c'est important, comme les petits panneaux sur les chemins de montagne, on a vu, pour montrer le sommet de la montagne, l'idéal, valable pour tout le monde. Mais plus on s'approche de situations personnelles et singulières, plus il y a des exceptions. Saint Thomas qui disait déjà cela au XIIIe siècle. Et c'est pas nouveau. Ce que dit le pape François, c'est pas nouveau. Il parle de situations singulières, d'exceptions. C'est pas nouveau. Et je pense que les pasteurs de l'Église, qui ont, j'espère, une grande expérience pastorale, n'ont pas attendu le pape François pour mettre déjà en pratique ce que dit saint Thomas d'Aquin. En tous les cas, moi, j'en suis un. Voilà. Quelquefois, j'ai pris mes responsabilités, je les assume devant Dieu. Autrement dit, on ne peut pas appliquer des normes générales à des situations particulières, car la personne éclate la norme. On parlait de salut de l'âme ce matin. Alors, les divorcés remariés, quant à l'accès au sacrement, quel discernement, quelle responsabilité, c'est ma question. Lorsqu'apparut l'exhortation du pape, à Maurice Laetitia, je reçois tout de suite un téléphone d'un journaliste qui me dit « Alors ça y est, maintenant les divorcés remariés ont le droit de communier ». Je dis « Vous avez vu ça où ?» Mais c'est la note 351 à tel paragraphe. Je ne l'avais même pas lu. J'ai lu à toute vitesse parce que je savais que les journalistes allaient me téléphoner, puis j'ai raté cette note. J'ai dit ah bon, mais écoutez, j'irai vérifier, je vous redirai. Alors, est-ce le cas? Alors, je lis cette note du pape. Dans certains cas, il s'agit aussi de l'aide des sacrements, dans le cas des divorcés blessés. Voilà pourquoi aux prêtres, je rappelle que le confessionnal ne doit pas être une salle de torture, mais un lieu de miséricorde du Seigneur. Je souligne également que l'Eucharistie n'est pas un prix décerné aux parfaits, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles. Ça, c'est vrai que ça a été quand même révolutionnaire et qu'aujourd'hui, ça crée un petit peu le bourson dans l'Église. Alors, pourquoi ? Alors, le pape, il agit en jésuite. Les jésuites sont très, très branchés sur le discernement et la responsabilité des personnes. Et au bout du compte, c'est la personne qui, en conscience, doit prendre la bonne décision. Alors, cette note, il faut la replacer dans un contexte où, en fait, il est possible que dans des situations de séparation, de divorce, enfin, etc., il est possible, dit le pape, que dans une situation objective de séparation, il n'y ait pas forcément péché à imputer. Cela dépend des situations. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors là, je le cite aussi. Autrement dit, le pape reste fidèle à la doctrine en rappelant que les divorcés remariés sont en situation objectivement irrégulière, aussi en se tournant du côté des cas particuliers, selon les circonstances des ruptures, le poids des conditionnements, le degré de responsabilité personnelle. Ce degré-là peut être faible, voire nul. Comprenez ça ? Alors, je vais essayer peut-être d'expliquer encore un petit peu mieux en citant le pape Jean-Paul II qui dans Familiaris Consortio, donc en 1980, avait déjà ouvert cette porte de réflexion où il disait qu'on ne peut pas mettre toutes les situations dans le même panier. Vous voyez, il y a le conjoint qui a été abandonné après 6 mois de mariage avec un enfant qui va naître, ou une séparation ou un divorce après 35 ans ou 40 ans de mariage avec 4 enfants. Vous sentez, les situations ne sont pas les mêmes. Ensuite, dans l'approche pastorale. Donc, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Alors, le pape Jean-Paul II disait déjà, ceux qui, en conscience, ceux qui ont en conscience la certitude subjective que le mariage précédent a été invalide, doivent être approchés différemment que ceux chez qui on trouve des raisons objectives à une séparation qui pourrait faire que ce mariage puisse être reconnu nul ou non. Comme on a dit tout à l'heure, c'est pas, on n'annule pas un mariage. Hein. On reconnaît qu'il n'y a pas eu de sacrement, même si le sacrement a été célébré. Donc il y a plusieurs critères, je ne les ai pas tous en tête, des critères objectifs qui feraient qu'on puisse reconnaître la nullité de mariage. Par exemple, lorsqu'il y a eu mensonge sur l'identité de la personne, lorsque la personne a été trompée avant, pendant et après le mariage, par exemple, lorsque le mariage n'a pas été consommé après la célébration. Enfin, il y a plusieurs critères objectifs qui font qu'on reconnaît que le mariage a été reconnu nul. Mais il y a des situations où le mariage, il n'y a aucun critère qui pourrait faire que ce mariage soit reconnu nul. Par contre, dans la conscience de la personne, il a cette certitude que cette personne n'a absolument rien fait pour qu'il y ait rupture. Même si personne n'est ou tout noir ou tout blanc, on le sait bien, mais il y a des situations où finalement c'est arrivé alors que moi j'ai tout fait pour sauver mon mariage. C'est ce que dit le pape Jean-Paul II, cet exemple qu'on peut bien sûr le comparer à une quantité d'autres exemples. Alors le pape Jean-Paul II s'arrête en disant, ben voilà, dans ces cas-là, il n'y a pas culpabilité, on ne peut pas parler de faute, etc. Et le pape François va emboîter le pas pour se poser la question si à ces personnes-là, on pourrait leur proposer l'Eucharistie et l'ouverture des portes au sacrement de l'Eucharistie et du pardon. Je ne sais pas si c'est un petit peu compliqué, mais je vais prendre des points plus concrets, si ça vous parle. Si, voyez. Donc quand on dit, alors voilà, désormais le pape ouvre toutes les portes, non, le pape demande d'accompagner chaque situation, et de voir aussi dans chaque situation, lorsque celle-ci a été revisitée, ce qui est possible de poursuivre ou non. Alors, je vais prendre, à partir de ce chapitre 8 et de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, quelques points concrets. Ça veut dire à partir de quelle situation on pourrait ouvrir la porte des sacrements aux personnes divorcées et mariées. Alors voilà les points, ces points ils sont importants. Pour en parler, vous pourrez poser des questions sur ces points-là. Donc, premier point, la personne s'est convertie et présente un désir manifeste de croître dans le Christ. Il y a vraiment eu un chemin de repentance. Quelles que furent les circonstances d'une séparation, donc il y a vraiment eu là une conversion et un cheminement sérieux. Ensuite, point numéro 2, toutes les situations ne sont pas les mêmes, c'est ce que je viens de dire avant. Une rupture après 6 mois de mariage ou après 30 ans avec 3 ou 4 enfants, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'on a fait pour tenter de sauver ce mariage? Point numéro 3, la personne connaît l'enseignement de l'Église avec la volonté de trouver son chemin à la doctrine de l'Église. Ce n'est pas la personne qui vient puis qui dit, de toute façon, l'origine, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai droit à la communion. Ça, non. C'est pas un droit, c'est pas un dû, c'est un don, c'est un cadeau. Et un cadeau se reçoit quand on l'attend, quand on en a faim. Ça va chercher tout au fond du cœur la réponse au cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? Quand Adam s'endort dans son sommeil en Genèse 2, hein, parce qu'il ne trouve pas un autre lui-même, cette femme qui lui correspond, il s'endort. Ça veut dire que on peut parler d'un désir comme exacerbé. Il n'en peut plus d'attendre. Il y a comme un sommeil, il ne sait plus que faire, quoi. Il s'endort. Puis ensuite, à cette opération quasi chirurgicale où en fait, Dieu va chercher au plus profond de son cœur ce désir qui lui fait mal, ce désir qui souffre. On ne peut pas aimer sans souffrir. On ne peut pas désirer sans souffrir. Si bien qu'au moment où Dieu va lui donner cette femme qu'il désire, il va le recevoir non pas seulement dans sa sensibilité ou comme un besoin affectif à satisfaire, mais comme une réponse au désir blessé de son cœur. Voyez ? Et cette femme, alors, va devenir un cadeau. Elle pourra devenir un cadeau parce qu'il y a ce désir qui est attendu jusqu'à la blessure. C'est cette blessure qui va le plonger dans ce, on peut dire, ce sommeil de déprime. Mais comme dit saint Augustin, le désir fait souffrir, mais en faisant souffrir, il élargit le cœur. Et il va donner une place inouïe à la grâce de Dieu lorsqu'elle sera donnée. Voyez, désirer l'Eucharistie de cette manière-là, jusqu'à souffrir. Et cette souffrance qui nous fait cheminer, qui nous fait chercher la vérité, qui nous fait creuser notre vie, savoir attendre. Pas, on est dans une société d'une consommation, tout de suite, moi j'ai droit à. Mais non, un cadeau, c'est pas un droit. Voyez, le fils aîné de la parabole de l'enfant prodigue, il était dans la même situation. Il a été incapable de recevoir le cadeau du Père. Il voulait se l'approprier comme un dû. Cela fait tant d'années que je te sers, oui, mais comme un esclave. Et le Père lui dit, mais tout ce qui est à moi est à toi. As-tu désiré? As-tu pris le temps de désirer mon cadeau? Vous voyez, sinon, on va réagir comme le fils aîné de la parabole, on va s'approprier quelque chose qu'on pense être un dû. Et là, on passe à côté du don. Et un dû, il est dépouillé de toute grâce. Un don, il est rempli de cette grâce de Dieu. Point numéro 4, la personne, toujours, accepte de vivre un accompagnement auprès d'un prêtre, d'une équipe. Il est urgent de mettre sur pied de telles équipes, sinon nous restons dans les bonnes intentions et sans lendemain. Ce serait mal comprendre l'enseignement du pape que de dire « moi je suis divorcé ou remarié et j'ai maintenant droit à l'Eucharistie ». Accepter de se poser les vraies questions sur la rupture, de mettre au jour ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Abandon, trahison, péché, rejet. Non pas pour se faire mal, mais pour en être libéré. Au contraire, et pour laisser la lumière nous visiter jusque dans ces blessures-là. Sinon, vous voyez, je le redis, on va faire le déni d'une partie de notre vie qui ne sera pas visitée. Et un jour, ça va remonter, tout ça, ça va, excusez-moi, nous péter à la gueule, quoi. Si on ne va pas jusqu'au fond de soi, si on ne va pas jusqu'au bout de la vérité, c'est important. J'aime toujours raconter une petite anecdote. Quand j'étais enfant, on était trois garçons. Et puis, il y avait toujours le salon, vous savez, ça existe toujours, les salons qui est la pièce clean de la maison, où la maman passe l'aspirateur, passe la carte de visite quand arrivent les gens au salon. Bon. Et je me souviens toujours, quand j'étais enfant, quand les visites arrivaient, la maman qui hurlait « Fermez la porte, ils arrivent !» Donc, fermez la porte de vos chambres, hein. Ben, c'était le boxon. Alors, on n'allait jamais dans les chambres des garçons, ben, c'était le boxon, et on s'arrêtait au salon. Ouais, tout le monde était content. Quand Jésus vient visiter notre maison, c'est le contraire. C'est nous qui crions, fermons les portes, il arrive. Nous, on veut, Seigneur, on veut juste recevoir dans le salon, tu vois, où on est clean, où nous, on pense comme ceci, on pense comme cela, on a nos revendications, on a nos doléances et tout. Puis je dis, oui, ça, je sais. Mais maintenant, j'aimerais visiter toutes les chambres de la maison. Mais surtout pas, Seigneur, il y a un boxon pas possible. Puis je veux même aller à la cave, à la buanderie, je veux aller partout. Ah non, Seigneur, tu peux repartir. Bon, et il repartira. Parce qu'on a peur. On pensera qu'il vient contrôler, comme un sergent-major. Mais si on sait qu'il vient justement pas pour contrôler, mais pour faire de l'ordre, pour nous guérir dans ces pièces de notre maison verrouillées, qu'on verrouille. C'est ça aller jusqu'au bout de la vérité. Je pense que l'obstacle majeur à la vérité, c'est la peur de Dieu. C'est qu'on nous présente trop souvent ces situations sur le ton de la doctrine ou de la loi. C'est comme ça. J'ai pas le droit, comme je vous disais ce matin. Moi, j'ai pas le droit de vous la donner. Et l'autre en face qui disait, chez moi, vous pouvez venir quand vous voulez. Ouais, mais dans un cas ou dans un autre, est-ce que les personnes ont fait leur chemin de vérité? Non. C'est la peur de Dieu. en arrière-fond, quand même. Adam, où es-tu? J'ai eu peur et je me suis caché. Voilà. Donc j'ai verrouillé ces portes de ma vie. Je ne veux pas que tu y entres. Ben, j'ai peur de toi. C'est ça la vérité. Et si je peux rencontrer sur mon chemin un homme d'église ou une femme d'église, avec ce regard du Christ, du pasteur, petit à petit je vais pouvoir déverrouiller mes portes. Et je vais pouvoir accepter, ce n'est pas toujours de l'ordre de la compréhension, je vais pouvoir accepter que Dieu est descendu jusque-là pour me délivrer. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris monter jusqu'à moi sous les bâtons des chefs de corvée. Et je suis descendu pour vous libérer. Voyez, réagir avec agressivité et colère quand Moïse prend conscience que ce peuple d'esclaves, ce sont ses frères, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va user de violence. Il va tuer un soldat égyptien. Puis il n'arrange pas les choses parce que ses propres frères lui disent « Mais non, disparaît. Après, ça va être notre faute. » Et il va agir par la violence. Ah, ça, c'est quand, vous voyez, quand on ne va pas jusqu'au bout des choses, on agit par la force. Mais Moïse doit faire encore son chemin dans le désert. Il doit aller jusqu'au bout de lui-même. Et c'est dans ce moment de pauvreté, de fragilité que Dieu va lui parler dans le buisson ardent. Au moment où Moïse est faible, complètement désécurisé, il ne sait plus où il en est, il va passer de la colère à la dépression finalement. Il dira à quoi bon ? Qu'est-ce que je peux faire pour ça ? Premièrement, il ne m'écoute pas. Puis ensuite, que faire contre Pharaon ? Et Dieu lui dit, moi j'ai la solution. Est-ce que tu veux me faire confiance ? Mais enfin, qui suis-je pour aller trouver Pharaon ? Je serai avec toi. Pour retourner en Égypte, pour retourner dans ton passé, là où tu as souffert, là où tu as peut-être tué un soldat égyptien, là où tu t'es mis en colère, là où tu as fermé des portes. Il faut retourner en Égypte, mais je serai avec toi pour te délivrer. Et je te délivrerai, et j'en délivrerai beaucoup autour de toi en te délivrant. N'aie pas peur de poser tes pieds sur la terre nue, d'écouter, de sentir les vibrations de ton passé qui te remontent à la conscience. Enlève tes sandales, habite ta réalité, entre dans ton incarnation, entre dans ce qui a bâti toute ta vie, sens au fond de tes pieds ces vibrations de ton passé, de ta vie, ces angoisses trop longtemps refoulées, ces peurs, laisse-les remonter. Je les brûle, je les visite et je serai avec toi pour te délivrer. Retourne en Égypte et tu en ressortiras libre avec tout ton peuple. Vous voyez, il faut se poser la question. Cette peur de Dieu, qu'on le veuille ou non, elle est là. On ne la chassera jamais totalement. Si ton cœur t'accuse, dit saint Jean, sache que moi, Dieu, je suis plus grand que ton cœur. Je connais toutes choses. Il faut se laisser apprivoiser par Dieu. C'est ça la vraie réponse. Se laisser apprivoiser par Dieu. Apprivoiser Dieu. Et on a peur de Dieu quand on a connu l'échec. Et on ne veut pas se laisser visiter. On préfère se mettre en colère. Être libre par la colère. Avoir ce qu'on veut par la colère. Et là, on peut avoir ce qu'on veut par la colère, mais ça va pas porter de fruits. Point numéro suivant, je ne sais plus à quel point je dis le point numéro suivant. Cinquième, donc la personne toujours, elle a assumé ou elle assume son passé blessé au niveau des enfants, réconciliation, où en est-elle avec son premier mariage. Six, elle accepte de se trouver dans cette situation dite irrégulière qui ne correspond pas forcément aux exigences de l'évangile ou de la conception du mariage enseignée par l'Église. C'est vivre dans sa chambre en désordre, vous savez, mais enfin c'est possible vivre dans la chambre en désordre, je l'ai dit ce matin. Bon. Point 7, il s'avère nécessaire de discerner dans le cœur de la personne son désir profond et sincère d'avancer dans la conversion à la vérité soutenue par l'Église. Le regard de miséricorde du pasteur valorise les petits pas et l'amour vécu au milieu des grandes limites de cette nouvelle union, pour aider la personne à progresser vers le sommet de l'évangile. La loi de la gradualité, hein, je vous en parlais ce matin, se réjouir de ce que la personne peut vivre aujourd'hui. Se réjouir, bravo. Voilà. 8. Discerner la foi profonde dans le sacrement de l'Eucharistie et le désir de communier comme un généreux remède et un aliment pour les faibles, dit le pape, un don qui doit correspondre à une authentique fin eucharistique et non pas comme un dû à revendiquer. Au final, c'est la conscience de chacun éclairée par ce qui vient d'être dit, de décider ou non de s'approcher de la table eucharistique. Et à la suite de ces pages, il revient aux évêques de chaque diocèse, éclairés par les théologiens, de proposer à leur pasteur le juste chemin. Par exemple, en Suisse, les évêques se sont prononcés et leur décision a été de se reporter sur chaque pasteur en disant, voilà, maintenant c'est à vous, les pasteurs, on vous fait confiance. De vivre cet accompagnement des personnes et de chercher avec elles la possibilité ou non, selon la décision finale de la conscience, d'avoir accès au sacrement ou non. Voilà, donc ça, c'était la décision. Je ne sais pas si les évêques de France se sont déjà prononcés, mais vous voyez, il y a des diocèses en Italie, c'est assez étonnant. Le diocèse de Toscane, par exemple, a décidé que non. La doctrine, point. Divorcés, mariés, pas de sacrement. On dit que le diocèse de Rome a décidé que oui, selon un accompagnement. Voilà, c'est un petit peu étonnant, hein, mais voilà, donc la réalité, elle en est là. Bon, moi je pense que notre Église, elle est sous haute tension, et c'est très bien. Elle est un petit peu ébranlée, et c'est très bien. Pour qu'on se pose de nouveau les vraies questions, les questions profondes, l'Esprit Saint nous donnera des réponses, voyez. Mais c'est comme dit le pape François si bien, il le dit, mais l'Église, elle ne peut pas continuer simplement de transmettre un message moral ou qui est perçu tel, sinon un jour, dit-il, elle va s'écrouler comme un château de cartes. Il faut redonner ce parfum de l'Évangile qui fait du bien. Donc s'ouvrent de nouveaux sentiers pastoraux aujourd'hui qui restent des sentiers. Et voyez, donc on ne pourra jamais, je pense, et je n'espère pas, arriver à des conclusions claires. Pourquoi ? Sinon on va retomber dans les généralités et on ne pourra plus rejoindre les situations particulières si on donne des réponses trop clair, c'est comme si, c'est pas comme ça. Donc là, on revient à la case de départ, comprenez. Ce qui demande une responsabilité redoutable chez les pasteurs, elle est redoutable. Avant, elle reposait sur le pape. L'Église a dit, pas de problème. Voilà, oui ou non. C'est clair. Aujourd'hui, l'Église nous dit, c'est à vous les pasteurs à prendre vos responsabilités, à cheminer avec les personnes, à chercher avec elles le chemin qui est le mieux pour elles, à discerner si ce pain de l'Eucharistie est vraiment perçu par elles comme le pain d'effort pour les faibles. Voilà. Et en fin de compte, surtout je pense que ce qu'il faut souligner, c'est que toutes ces situations de blessure, de rupture, ne sont que le miroir de toutes nos situations personnelles de rupture, de blessure, de refus. Je pense qu'il ne faut pas oublier, vous les personnes divorcées, divorcées, vous avez une mission dans l'Église, c'est de rappeler à tout le monde qu'on est tous vulnérables et blessés. Et que ces blessures peuvent être visitées par la lumière. Et si vous vous laissez visiter par la lumière, vous allez devenir d'authentiques témoins. Il ne faut pas toujours mettre l'accent sur les sacrements. Il faut mettre l'accent sur cette communion au Christ. Il faut mettre l'accent sur la fin de Dieu. Il faut mettre l'accent sur les fruits que porte cette fin de Dieu. Sinon, vous voyez, on est toujours branché sur ce qui n'est pas essentiel, parce qu'on peut aller tous les jours tendre la main ou sortir la langue et répondre « Amen ». Sans que ça porte du fruit. Parce que c'était par habitude. Parce qu'on y a droit. Puis on ne vit pas la vie chrétienne. Ah, moi je dis souvent aux jeunes, un petit peu en caricaturant, je leur dis des fois, mais si vous si vous êtes autant pointilleux dans la liturgie, parce qu'aujourd'hui c'est la mode très pointilleux dans la liturgie chez les jeunes, et féru de dentelles et de chandelles, si vous êtes autant pointilleux dans la charité que vous l'êtes dans la liturgie, alors continuez comme ça, je suis d'accord avec vous. Mais voyez, c'est peut-être là où le bât blesse, hein. C'est comme si on avait fait des sacrements, voilà, une médaille d'or délivrée au meilleur. Ou alors, tant qu'on ne la délivre plus, parce qu'il n'y a plus de meilleur du tout, il n'y a que des renégats, il n'y a que des traîtres et tout ça, mais ce n'est pas cela du tout. Et je pense que, voilà, creusez votre faim de Dieu. N'allez pas trop vite, ne revendiquez pas un dû. Soyez les témoins d'un Dieu qui vient visiter nos blessures, encourager les gens qui souffrent à s'ouvrir à la lumière, pour que nos blessures diffusent la lumière. Je pense que c'est important. N'allez pas trop vite. Qu'est-ce qui est important ? C'est pas d'avoir d'abord accès au sacrement, c'est de vivre la vie de Dieu. Pour pas avoir accès tous les jours au sacrement et pas vivre de la vie de Dieu. C'est vivre de la vie de Dieu qui porte du fruit. Et lorsqu'être fille de Dieu est portée, fortifiée par les sacrements, ça a du sens. Évaluons notre faim eucharistique. Évaluons notre faim de charité, du désir d'aimer. C'est pas si simple. Saint Paul nous dit, hein, un jour, même les sacrements disparaîtront. Qu'est-ce qui restera, vous le savez bien, c'est la charité. C'est ça qu'il faut regarder, c'est ça l'essentiel. C'est l'amour qu'on peut donner, c'est recevoir, toutes ces situations, on peut se réconcilier. C'est ça qui est important. Et Dieu compte sur vous, vous qui avez vécu un échec, il a besoin de vous pour sa mission. Pour que vous soyez témoins de sa miséricorde. Quant au sacrement, prenez le temps. Ne vous offusquez pas parce que vous avez tout à coup de jeunes prêtres qui vous disent « Niette !» Laissez couler. Et ils ne sont pas Dieu. Comme dit Maurice Sindel, le prêtre c'est que l'âne qui porte le Christ. Ensuite on ramène l'âme à ses râteliers, on laisse le Christ à Jérusalem. Alors gardez le Christ, puis caressez l'âne de temps en temps s'il est content, si ça lui fait du bien. Mais gardez le Christ. C'est ça qui est important. Il ne faut pas vous offusquer. On est tous en train de... Maintenant c'est un petit peu des fois la pagaille des ponts. On est tous en train de chercher ensemble. Donc il ne faut pas se coincer, se bloquer. Par contre, n'hésitez pas à vivre de Dieu. Alors là, allez-y, mais à mort, quoi. Allez-y à fond. C'est ça qui fait vivre. Puis le reste, il faut cheminer. Il faut cheminer. Puis un jour, il y a des décisions qui sont à prendre, c'est vrai. La porte est ouverte. Mais il ne faudrait pas que, vous voyez... On arrive à l'excès inverse où finalement on ne se pose plus du tout de questions sur sa vie et on va tous communier. Divorcé, divorcé, remarié, pas divorcé, pas divorcé, remarié, homosexuel, pas homosexuel. Parce que là aussi la même question se pose, vous savez, moi qui ai ce ministère dans mon diocèse, c'est là, quand j'ai un couple. Et si une vie de couple permet de ne plus papillonner, une vie de couple permet de trouver une stabilité, ben c'est un progrès. C'est un progrès qu'on va voir comme un progrès aussi. Valoriser ce qui est vrai, ce qui est amour. Puis après, ben, y a un idéal à poursuivre, on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter là. Ensuite, il y a des choses qu'on ne fait pas. Un mariage, c'est entre un homme et une femme, point. Puis j'ai le droit de le dire et je le dis. Voilà. Par contre, qu'on doit trouver des signes et des gestes d'accueil, si on dit qu'on accueille, c'est à trouver. C'est à réfléchir quel geste, quel signe d'accueil dans ces situations. Mais de nouveau, à travers un cheminement de vérité, Sinon, on ne respecte pas, on ne vous respecte pas. Moi, si je vous dis, voilà, maintenant, tout est permis, allez-y, eh ben, je ne vais pas vous respecter. Parce que je vais vous forcer à verrouiller des parties de votre vie qui n'ont pas à être verrouillées. Qui ont à être rejointes, justement, par le Christ. Voilà, je m'arrête là, j'aimerais bien maintenant que nous soyons, parce qu'on a aussi un évêque à côté de moi, de nous, de laisser ce temps aux questions, je pense que... Voilà, merci. Oui, c'était pas pour applaudir, c'était juste pour... Voilà, oui, moi j'essaie de dire amour et vérité, parce que je pense que... On parle tellement, on parle tellement, on parle trop. Mais on ne vit pas assez. Voilà. Alors, je suis ouvert. Nous sommes ouverts aux questions. N'hésitez pas. Il y a un micro qui se balade. Et puis, je crois que les livres sont arrivés.
Le livre... Vous pouvez, pendant les questions, vous pouvez passer acheter ce livre qui vient d'arriver providentiellement.
Donc, ce que j'ai dit ici, c'est ce que j'ai mis dedans, quoi. Ah, oui, c'est vrai, la question est bien posée. C'est vrai qu'il faut...
On a pas entendu la question.
Alors la question, je la résume, hein. La question, je la résume, en fait, c'est comment faire aujourd'hui avec la réfixation.
Raréfaction.
Merci. Ou la torréfaction, non, c'est pas la même chose. Des pasteurs, vu que, ben oui, c'est vrai qu'il faut vivre un chemin d'accompagnement, et il y a de moins en moins de pasteurs, c'est une excellente question. Et là, je pense que c'est comme d'autres situations, on parlait avec Monseigneur des tout ce qui touche aux abus, par exemple. Oui.
Vous pouvez, si vous n'êtes pas à l'aise pour poser une question orale, vous pouvez l'écrire sur un petit papier et le faire passer.
Alors, c'est comme pour tout ce qu'on développe aujourd'hui par rapport aux abus et ces choses-là.